France Inter, le 18-20.
Nous vieillissons tous, ça c'est logique, nous vieillissons tous en même temps, ça c'est statistique, nous vivons tous plus longtemps, c'est biologique, le grand âge c'est aussi souvent une perte d'autonomie, la dépendance, ça coûte 30 milliards d'euros en 2014, si mes chiffres sont bons, les besoins en tout cas sont croissants, ils ne feront qu'augmenter pour les plus vieux d'entre nous en situation de dépendance, pour les aides à domicile, pour les aidants, pour la famille, pour les EHPAD et ceux qui y travaillent. En chiffres, retenez cela, il y aura 40 000 personnes âgées dépendantes en plus en France chaque année à partir de 2030. Il y aura plus de 2 millions de personnes dépendantes en 2050. Pour financer tout cela, le rapport Libo de Dominique Libo qui est avec nous ce soir, pas de nouvelle journée de solidarité, pas de recul de l'âge de la retraite, en tout cas c'est pas ce qu'il y a dans le rapport, pas de travail plus longtemps pour cotiser davantage. Ce qui est sur la table, c'est de financer le grand âge par la CRDS qui sert à financer le trou de la Sécu, vous le savez, et qui serait pérennisé puisque le trou de la Sécu sera épuré en 2024. Un équivalent CRDS serait donc fléché vers la dépendance. Nous allons en parler. 175 mesures, par ailleurs, ont été listées, parmi elles notamment une aide financière de 300 euros pour les retraites entre 1000 et 1600 euros, une sorte de bouclier dépendance dont on parlera également. Le rapport Libo préconise aussi la fin de l'allocation personnalisée à l'autonomie, remplacée par une nouvelle prestation qui doit avoir pour effet de baisser la facture des ménages, plus 3 milliards pour la rénovation des EHPAD, 80 000 embauches également. Des mesures donc pour les aidants, pour les personnels, pour les métiers du grand âge, sur lesquels nous reviendrons aussi au fil de vos questions. Soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Saint-Ès. Le Téléphone Sonne.
Catherine, c'est vous la première et soyez la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Et on vous écoute Catherine, allez-y.
Alors moi j'ai 58 ans, je m'occupe de mon père qui a 88 ans, qui habite à 250 km de chez moi. Et voilà, j'ai la chance d'avoir un père qui a une très grosse retraite. C'est peu de gens en France doivent avoir une retraite comme ça, mais malgré tout, au bout de 5 ans, je me rends compte que ça va plus être possible parce que je peux plus payer les auxiliaires de vie qui sont avec lui pendant 11 heures par jour. Voilà. Donc tant que c'était que la journée, ça pouvait le faire, mais maintenant il va avoir besoin de monde la nuit et je pense que c'est plus possible.
Est-ce que je peux vous demander combien ça vous coûte, Catherine, qu'on ait vraiment une idée? Ça veut dire quoi, toute la journée et toute la nuit?
7 000 euros par mois.
7 000 euros par mois.
D'accord. Et c'est que la journée. Hein. Si je veux mettre quelqu'un la nuit, et ben, je vais en rajouter à peu près autant. Quoi. Donc voilà, c'est plus possible.
Et qu'est-ce que vous avez comme solution, du coup? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite, si effectivement ça devient impossible pour vous?
Et ben, je le mettre dans un EHPAD, mais ça sera... C'est pas de gaieté de cœur, voilà. Parce que je trouve qu'il avait un accompagnement personnalisé. J'ai des gens merveilleux autour de lui qui travaillent à ses côtés et je trouve ça très bien, mais ça va plus être possible, quoi, voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Catherine, qui fera une bonne entrée en matière pour cette émission, pour vous répondre, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Dominique Libo est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale. C'est vous qui avez piloté cette concertation et qui avez rendu le rapport cet après-midi à Agnès Buzyn. Bonsoir Maud Collomb. Vous êtes
Bonsoir.
Directrice du développement de la qualité de l'ADMR, Réseau Associatif de Services à la Personne. Merci à tous les deux d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Catherine, Dominique Libo, tel que vous l'avez, vous, imaginé dans votre rapport? Est-ce que typiquement, c'est des situations dans lesquelles on ne doit plus se trouver si on arrive à ce que vous souhaitez et à financer très correctement la dépendance? Parce que 7000 euros, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup.
D'abord, toutes ces situations individuelles, et je pense que d'autres vont être évoquées, c'est tout ce qu'on a rencontré dans la concertation et ce qu'on a essayé d'écouter. C'est effectivement comment les personnes aujourd'hui, qu'ils soient conjoints de personnes âgées, qu'ils soient des enfants, vivent cette situation. Et cette situation, elle est presque toujours compliquée. Elle est compliquée naturellement parce que c'est toujours... pas simple de voir ses parents vieillir et donc c'est une situation difficile.
Et je pense que c'est fini toujours comme Catherine, en fait, c'est-à-dire qu'au début on peut et puis au bout d'un moment on ne peut plus.
Alors,
en fait,
il y a plusieurs sujets dans cette question. Bon, la question de l'accompagnement du parcours, parce qu'effectivement il y a ce qu'on appelle le parcours de la personne âgée, effectivement, qui au départ il y a des fonctions qui fonctionnent un peu moins bien, donc il y a des solutions, mais comment on accompagne l'aidant dans tout ce parcours? Les mêmes solutions peuvent pas être souvent tout le temps.
Bien sûr.
Et aujourd'hui on n'a pas forcément des solutions suffisamment graduées sur un territoire. Demain, il faut des solutions beaucoup plus diversifiées. Aujourd'hui, c'est souvent l'option, simplement, le maintien à domicile ou un établissement qui est vécu comme... on arrive dans une collectivité, souvent sans le vouloir, effectivement. On se retrouve uniquement avec des personnes âgées. Et donc, cette façon qu'à notre système aujourd'hui, un peu de ne proposer que l'enfermement chez soi, l'enfermement d'une certaine manière avec d'autres personnes âgées, ben c'est pas très satisfaisant. Et donc il faut imaginer autre chose, d'abord sur l'offre elle-même, pour imaginer d'autres solutions. Et aussi souvent, quelquefois, les anticiper davantage, parce que il faut pouvoir anticiper quelquefois des solutions pour pas être pris par l'urgence. Ensuite, il faut avouer que quand on est sur une dépendance lourde, comme notre auditrice, eh bien, oui, le domicile, ça devient extrêmement cher, il faut le reconnaître de toute façon, et que effectivement, l'établissement peut être une solution, mais l'établissement doit évoluer pour offrir des possibilités plus intéressantes et qu'il soit pas vécu comme un enfermement pour les personnes.
J'entends quand vous dites qu'effectivement il y a un moment aussi où on ne peut plus, en fait, même avec toute la meilleure volonté du monde, rester à domicile. En même temps, est-ce qu'il y a moyen quand même de baisser cette facture de toute façon avant d'arriver au moment où le passage vers l'EHPAD sera quasiment obligatoire?
Alors, nous proposons de baisser cette facture, mais en priorité pour les gens modestes. Il faut être honnête, on a aussi travaillé en prenant en compte le contexte financier de la France, dans la concertation il y avait des gens extérieurs, mais aussi des administrations. Donc nos propositions, elles essayent aussi de tenir compte de ce qui est possible, ce qui est faisable. Tout n'est pas faisable, et donc nous proposons de concentrer l'effort sur les personnes les plus modestes, disons celles qui perçoivent entre 1000 et 1600 euros, et là, nos propositions conduiraient à une baisse du reste à charge de 300 euros par mois. Donc c'est pas négligeable, mais il faut bien l'admettre, c'est très compliqué effectivement de proposer des solutions financières pour l'ensemble de la population, quels que soient ses revenus. C'est pas notre proposition.
Maud Collomb, pour aller peut-être dans le sens où je ne sais pas de ce que dit Dominique Libault, et surtout essayer de répondre effectivement aux interrogations de Catherine. J'imagine que des cas comme celui-là, vous aussi, vous en connaissez beaucoup, vous en entendez beaucoup.
Alors oui, on en entend beaucoup parce qu'effectivement la DMR accompagne des personnes âgées et dépendantes. On a plus de 700 000 personnes accompagnées en France, sur tous les territoires. Et effectivement, on a des situations telles que celles que Madame décrit. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de toujours répondre au cas par cas, qu'on ne connaît pas le contexte personnel de la personne. Mais en tout cas, ce que nous, on essaie de faire, ça va totalement dans le sens de ce qu'évoque Monsieur Libault, c'est-à-dire de créer des plateformes de services et de travailler sur des logiques de domicile renforcé jusque le plus longtemps possible. Après, il y a effectivement des moments où la vie à domicile n'est plus possible 24/24 seule, où il faut donc penser à d'autres accompagnements. Et c'est pour ça aussi qu'on développe des offres de services, on va dire un peu alternatives, qui sont des habitats regroupés, des habitats inclusifs, ou sur certains territoires. Donc on arrive à diminuer un petit peu le reste à charge parce que on crée des logements avec services qui sont regroupés, où on peut mutualiser en fait les aides, et à ce moment-là, on arrive un peu à réduire la facture au final.
Et peut-être que c'est une solution qui vous intéresserait. Jean-François, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci de nous appeler au 01 45 24 7000. On vous écoute.
Justement, j'étais en train d'écouter ce qui est en train de se dire. Moi, je n'avais pas pensé à la partie financière, mais c'est vrai que quand on a une petite retraite, la question va se poser. Mais bon, ceci dit, à mon âge, je commençais à penser que un jour ou l'autre, ça va s'éteindre. Je vais m'éteindre. Et bon, moi, franchement, j'ai pas envie de finir dans une EHPAD. Pour moi, ça représente un mouroir. Ça représente quelque chose ça m'angoisse presque à la limite d'être là avec d'autres, juste à l'attente de la fin, quoi. Donc, j'aurais envie de continuer de vivre chez moi tant que je pourrais, d'avoir la possibilité, éventuellement, quand je sentirai que ce soit le moment, d'avoir la force d'en finir moi-même.
Alors, ce qui est
ne pas aller dans ce genre de choses, voilà, ça me paraît terrible.
Et ce qui est encore un autre débat, mais on l'entend, et à chaque fois qu'on fait un téléphone sonne autour de ces sujets, il y a des gens comme Jean-François qui nous parlent de ces choses-là. Dominique Libault, là aussi, qu'est-ce qu'il y a dans votre rapport? En quoi on peut rassurer Jean-François, en fait, en lui disant aujourd'hui, on peut vous aider, effectivement, à rester le plus longtemps possible chez vous? Il a 71 ans, il a l'air d'aller très bien pour l'instant, et donc on a le temps d'y penser, en fait, quand on est quelqu'un comme lui.
Alors d'abord, effectivement, on peut anticiper pour pouvoir rester le plus longtemps possible au domicile. Par exemple, il faut penser assez tôt à des adaptations de son logement qui permettent de prolonger la vie au domicile. C'est souvent trop tard que les gens pensent « Ah, j'ai une baignoire et c'est pas idéal et ça serait peut-être bien d'avoir une douche à l'italienne. »
Mais ça fait partie des choses intéressantes dans la question de Jean-François, d'ailleurs, qui dit « Tecto, j'avais pas pensé à la partie financière. » Et à la fois, je comprends. Enfin, on n'a pas tout à fait envie d'y penser, il faut se forcer peut-être.
Il faut... Effectivement, je pense ne pas être complètement dans le déni de ce qui va nous arriver tous. Alors tout le monde ne va pas être en perte d'autonomie, hein, faut aussi dire, mais ça quand même affecte une grande partie d'une génération qui arrive à 80-85 ans. Et donc il faut quand même se dire, à un moment donné, je risque de perdre un peu au minimum en mobilité, etc. Et donc on va proposer des bilans autonomie plus tôt, qui permettent à la personne quand même de faire un diagnostic avec des personnes sur ce qui permettrait de rester plus longtemps au domicile. Mais par ailleurs, ce qu'il dit sur l'EHPAD, on l'entend beaucoup.
Bien sûr.
Honnêtement. Et donc, il y a un sujet de toute façon, modifier notre offre. Modifier notre offre. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On ne peut plus continuer avec l'offre actuelle, effectivement. Et nous devons avoir des offres intermédiaires qui ont déjà commencé à être évoquées. Par exemple, ce qui fonctionne assez bien, c'est des résidences-services, des résidences autonomies, c'est-à-dire des habitats groupés, qui permettent de sécuriser quand même des personnes qui ne sont plus isolées, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont âgées et qui sont isolées chez elles. Hein. Donc l'habitat groupé, c'est pas mal, ça peut offrir une sécurité sans cet aspect collectivité, vie en collectivité, que l'on n'a pas trop envie en EHPAD. Et l'EHPAD lui-même doit évoluer. L'EHPAD doit évoluer très fortement, ne plus être un lieu où effectivement les personnes âgées sont uniquement entre elles, mais on doit faire pénétrer la vie dans ces établissements, la vie avec les autres, avec les enfants, avec les adultes. C'est pas possible de continuer comme ça. Et donc, effectivement, l'exigence de notre auditeur, eh bien, elle est partagée. Il faut que on puisse donner la chance à tout le monde en France de pouvoir vivre sa vie jusqu'au bout, tout simplement, de vivre debout. C'est ça l'esprit de ce rapport, et c'est pour ça qu'on met l'idée aussi de l'autonomie très fortement dans nos propositions.
Dans un établissement, effectivement, je vous entends sans avoir le sentiment, c'est les mots de Jean-François sont intéressant, finir dans un EHPAD. Ça veut dire que de toute façon, c'est juste un moment d'angoisse terrible et finalement on meurt. Moi je trouve ça intéressant, en mot de colon, on parle des EHPAD aujourd'hui. À un moment, alors on ne va pas jouer sur les mots, on appelait ça des maisons de retraite. Mais dans la manière dont les appellations qu'on donne à ces endroits sont aussi importantes et disent aussi comment on va vivre à l'intérieur, non ? Vous trouvez pas ?
Alors oui, effectivement, et puis je crois que c'est d'ailleurs une des propositions de M. Libault, c'est de changer aussi ce nom d'EHPAD. On est sur quelque chose effectivement peut-être un peu technique, un peu lié aux soins, et ce qu'on souhaite aussi de notre côté, la DMR a plus de 80 EHPAD, et ce qu'on souhaite c'est aussi relativiser. Il y a des EHPAD quand même aussi où l'ambiance est bonne,
bien
ça
sûr.
Se passe bien, il y a des relations humaines qui sont très sympas, donc c'est vrai que
on aimerait tellement que ce soit le cas pour tout le monde en fait.
Ouais, il y a vraiment cette prise de conscience de l'ensemble des acteurs pour pouvoir faire évoluer ce positionnement.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, parce que ce qui est très important qui a été dit, c'est qu'il y a aussi des choses très très bien qui se font sur les territoires et qu'il faut aussi aller voir. D'ailleurs, moi je propose une journée EHPAD porte ouverte pour que les gens puissent aller voir. Et il y a des EHPAD qui sont remarquables, avec des personnels motivés, des formations, etc. Donc il faut surtout éviter de stigmatiser les EHPAD et les personnels surtout qui sont dedans, parce que il y a un sujet peut-être qu'on abordera, mais il faut aussi garder l'attractivité de ces métiers. Le sujet, c'est de faire de la qualité partout, de piloter par la qualité pour que la qualité soit toujours au rendez-vous. Et le rapport va proposer beaucoup d'éléments sur le pilotage par la qualité pour avoir la même qualité, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas.
Alors, on va y venir justement aux personnes qui travaillent dans ces EHPAD. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Jean-Louis, on vous écoute.
Merci. D'abord, je voudrais dire que j'ai lu les 5 premières pages de synthèse du rapport de M. Libault, et c'est vrai que c'est très complet. Le problème avec ce sujet, c'est qu'il y aurait énormément à dire. D'abord, il faut quand même rassurer un petit peu, quand même. C'est à partir de 2030 que les baby-boomers, là, vont représenter des masses de gens en plus à la retraite. Ensuite, je voudrais dire que il faut absolument renforcer les moyens pour mieux payer les salariés. D'ailleurs, on a du mal à en embaucher. J'ai présidé une asso importante sur le Mans pendant 12 ans, et on a du mal à trouver des gens qui acceptent de faire ce travail pour les salaires qui y sont. Donc ça, c'est quand même très important. Ensuite, sur les conseils départementaux, je pense qu'il faut absolument que l'État reprenne un peu la main, parce qu'ils font vraiment n'importe quoi. Ils font n'importe quoi en matière de tarifs. Ils tarifient de 16 à 25 euros l'heure d'intervention chez les personnes âgées. C'est vous dire que c'est n'importe quoi. Et ce qui débouche, c'est que le reste à charge d'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie pour les personnes, est du coup tout à fait inéquitable suivant les départements. Donc ça, il faut que ça cesse. Et enfin, parmi les sujets, parce qu'il y en a beaucoup, mais parmi les sujets, il faut aussi, me semble-t-il, que soit traité la restructuration du secteur. Depuis 2012, il y a des fonds de restructuration de l'État qui visaient effectivement mettre de l'ordre un peu là-dedans, mais il y a toujours 6200 structures en France qui peuvent faire du service à domicile aux personnes âgées. C'est un facteur de surcoût Parce que imaginez dans une ville où vous avez 250 000 habitants comme la mienne, où vous avez 15 ou 20 structures, vous imaginez les déplacements que les gens font, les aides à domicile font pour aller d'un endroit à un autre. Donc il faut absolument que l'État pousse à mettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Et il y a eu des propositions d'ailleurs de deux économistes récemment, Bernard Ben Saïd, qui a proposé plutôt un système d'appel d'offres. Moi je crois qu'il faut réfléchir à ces questions-là, parce que les coûts, ils doivent être regardés dans tous les sens par rapport aux EHPAD et par rapport aux services à domicile.
Merci beaucoup Jean-Louis. On va répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, vos remarques, en tout cas l'une après l'autre. Mais je voudrais d'abord qu'on écoute Sylvie, parce que je sais qu'elle n'est pas disponible pendant trop longtemps. Sylvie, et son témoignage nous intéresse. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel et mon témoignage. Je tenais vraiment à parler donc en tant qu'aide à domicile à l'ADMR en Aveyron. Parce que voilà, c'est vraiment un sujet.
Vous jouez à domicile alors.
Pardon ?
Vous jouez à domicile.
Oui,
avec Maud Collomb qui est là.
Et justement, et en plus, ça tombe vraiment bien ce soir parce que là, je dois partir parce que j'ai une réunion au sein de la DMR avec toutes mes collègues. Donc je vais leur dire d'écouter l'émission en replay. Et voilà, j'essaye de parler pour tout le monde. Bon, là, je vais parler de mon cas personnel. Moi, j'ai découvert ce métier complètement par hasard. J'ai vécu plus de 40 ans à Paris. On est arrivé dans l'Aveyron il y a 9 ans avec mon mari et ma fille. On a ouvert des gîtes. Il a fallu que je trouve une activité pour compléter nos revenus. Et par hasard, je suis arrivée à la DMR. Et par hasard, j'ai découvert ce nouveau métier. Et je peux vous dire que je le regrette, mais pas du tout. Même si c'est très mal payé. Alors, je ne devrais pas le dire. Hein, parce
mais si, bien sûr, allez-y, parce qu'on va parler de ça, non, évidemment. Ouais.
Non, mais voilà. Non, mais il faut avoir la foi. Je veux dire, c'est comme les infirmières. C'est comme tous ces métiers où on s'occupe des gens. Il faut vraiment avoir la foi pour faire ça. Hein. On ne fait pas ça que pour l'argent. Parce que
sinon, vous ne le feriez pas, je pense.
Exactement. Ça, sinon, j'aurais pu aller travailler dans un bureau. Hein, mais non, je n'ai pas envie de ça. Et voilà, je crois que j'ai entendu un petit peu l'intervenant qui parlait de la route. Effectivement, on est beaucoup sur la route. Bon, moi, ça va, j'aime bien conduire sur les routes. Mais c'est vrai qu'on est très mal indemnisé pour les kilomètres qu'on fait. On a notre propre voiture, donc c'est pour ça aussi qu'il y a plein de personnes qui pourraient le faire, ce métier, qui auraient les capacités, mais qui ne peuvent pas, faute de moyens. Mm-hmm. Parce qu'il faut quand même avoir une voiture.
Et il faut mettre l'essence dedans.
C'est le cas de le dire. L'Aveyron, je vous dis pas en hiver, bon, il y a de moins en moins de neige, mais quand même, les petites routes, quand il y a du verglas, voilà. Et donc, il y a un investissement déjà financier. Il faut avoir une bonne voiture, des pneus neige, enfin bon, ça c'est des détails techniques. Mais pour en revenir au métier d'aide à domicile, si vous voulez, bon, on n'est pas que des femmes de ménage, on n'est pas là, même si je respecte énormément les femmes de ménage, mais on passe le balai, ok, mais pas que ça. Il faut de l'empathie, énormément. Il faut garder de la distance pour se préserver. Il faut tout connaître de la vie des gens chez qui on travaille, mais il faut pas être trop intrusive. Il faut de la psychologie, c'est-à-dire s'adapter à chaque nouvelle personne chez qui on va intervenir, comprendre la personne, trouver ses centres d'intérêt, même si elle ne va pas en parler, et arriver à deviner. On regarde autour de nous, on regarde ce qu'il y a dans la maison. Oh, il y a un jardin, tiens, vous faites le jardin. Alors là, on va parler du potager, des légumes, de la nature. Après, il faut arriver, il y en a beaucoup, voilà, ils ont pas le moral, il y en a plein qui arrivent. Vous savez, quand vous arrivez, alors la phrase qui revient tout le temps, c'est « faudrait pas vieillir ». Et le pire, c'est « j'attends de mourir, j'attends la mort ». Donc là, on est là, à 8h du matin, vous entendez ça, bah, il faut encaisser et puis il faut y aller. Il faut leur redonner le sourire, le moral. Moi, quand j'arrive à faire rire quelqu'un, mais je peux vous dire que ça y est, ma journée...
c'est la Légion d'honneur.
Oui, voilà,
merci beaucoup Sylvie, on vous laisse partir à votre réunion. Merci beaucoup pour votre témoignage. Dominique Libaud, Maud Collomb tout à l'heure, mais comme elle joue à domicile, je voudrais d'abord en parler avec Dominique Libaud. Formidable témoignage de Sylvie. Et on imagine combien, effectivement, le cœur qu'elle y met. Et en même temps, vous savez quoi? Ce que j'ai envie de vous demander, c'est un peu trop facile, en fait, au fond, de compter sur cette bonne volonté-là, cette énorme bonne volonté, parce qu'elle le dit, c'est sa voiture, c'est son essence, et si j'en crois ce que j'ai sous les yeux, de toute façon, payer...
35 centimes du kilomètre, c'est ça, de ma part.
Et salaire moyen, de toute façon, au-dessous du SMIC, quoi qu'il arrive.
Beaucoup de personnes, alors beaucoup de femmes, je tiens à le dire, parce que aussi ce sujet, c'est un sujet de égalité femmes-hommes. Si ces métiers sont peu valorisés, moi je le pense
c'est
personnellement,
genrés,
c'est parce que
absolument.
C'est voilà des tâches qui traditionnellement sont considérées comme féminines. Et je trouve que effectivement, s'occuper de gens qui nous sont chers, de nos parents, etc. Bah ça mérite peut-être un peu plus d'attention de la société. Et donc c'est pour ça que nous mettons le sujet des métiers, de la valorisation des métiers comme sujet quasiment numéro 1 de la concertation, et je suis très heureux que la ministre ait dit qu'elle en faisait aussi une priorité à l'issue de la réunion de ce matin. Oui, c'est fondamental, et je suis très heureux de ce témoignage, parce qu'il témoigne à la fois de la richesse qu'on peut avoir dans ce métier de contact humain, de ce qu'il peut vous procurer, mais aussi du fait que pour bien l'exercer, ben, il faut des conditions de travail correctes, et aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Le sujet, effectivement, très concret du déplacement, donc effectivement des indemnités kilométriques qui sont pas revalorisées, et franchement, on le dit, franchement, le véhicule de service, c'est peut-être un peu mieux, effectivement, de s'organiser, effectivement, pour proposer des véhicules pour que les personnes n'aient pas utilisé leur véhicule personnel, et qu'effectivement, des gens qui n'ont pas forcément un véhicule personnel puissent, effectivement, faire ce travail. Donc, on pousse énormément à ça, effectivement. Là, nous sommes vraiment un des éléments essentiels.
Et notre ami le dit très bien, on ne compte pas ses heures. S'il faut rester plus longtemps avec une dame ou un monsieur parce qu'on sent bien qu'il y a besoin de parler, ben, elles le font, ces femmes-là, comme le fait notre auditrice.
Tout à fait. Alors, pour ceci, ça a été abordé par l'auditeur précédent, il faut aussi une tarification correcte des services à domicile. Je ne pense pas que ce soit la DMR qui me démentira. Et donc, sur cette, effectivement, il y a des iniquités entre départements, parce que c'est la collectivité départementale qui aujourd'hui tarifie les services à domicile. Effectivement, il y a des écarts qui ne sont pas franchement toujours explicables. Donc, on propose un barème minimal à 21 euros pour permettent de valoriser correctement les personnes. Et on propose aussi un forfait, je ne veux pas aller dans les détails, mais pour permettre plus de qualité autour de tout ceci. C'est vraiment très important parce que il faut que ces personnes, elles sont aussi très souvent isolées. Donc il faut, elle dit, je pars en réunion. C'est très important.
Ouais.
Voilà, qu'elles puissent aussi échanger avec les autres et que ce temps-là soit du temps qui soit valorisé.
Monsieur Libault, ça nous ramène à la question de Jean-Louis juste avant qui disait il faudrait que l'État reprenne un petit peu la main parce qu'effectivement, vous le disiez, il y a trop de disparités. Est-ce que c'est ça la clé? Est-ce que c'est que l'État reprennent les choses en main parce qu'il y a trop de disparités d'un département à un autre, elle est là la solution ou pas?
C'est trop simple de dire ça. C'est-à-dire que le département, à mon sens, il a un vrai rôle à jouer parce que beaucoup de choses vont se jouer sur une offre sur des territoires. Et donc c'est bien qu'il y ait non seulement la collectivité qui subventionne, si j'ose dire, qui regarde le reste à charge et tout ça, mais il y a aussi à organiser comment ça se passe sur un territoire. Et puis, la personne âgée, ce n'est pas que du médico-social, c'est du cadre de vie, c'est du logement, c'est des transports, c'est... voilà. La personne âgée, demain, elle doit être prise en compte dans son ensemble. Donc, le département a un rôle à jouer. Mais en revanche, demain, dans la relation entre l'État et les départements, l'État doit être plus exigeant sur un certain nombre de points pour faire en sorte qu'il y ait de l'équité qui progresse, de l'équité territoriale entre les départements, effectivement.
Maude Collomb, j'ai oublié le prénom de notre auditrice
Sylvie,
tout à l'heure. Sylvie, pardon. Oui. Ouais, vous en connaissez plein des Sylvie, j'imagine. Et avec, effectivement, une vraie disparité dans les différentes Sylvie qui sont d'un département à l'autre.
Alors oui, et en tout cas, je remercie Sylvie de son témoignage, parce qu'effectivement, c'est très révélateur des salariés de la DMR et de l'ensemble du secteur, mais je voulais aussi insister sur le fait, ce qu'elle dit, c'est très important, notamment sur le fait que ce soit un métier qu'on choisit par vocation. Mmh. C'est pas un métier par défaut, parce qu'en plus c'est un métier difficile avec des situations difficiles, comme elle en a témoigné avec des
visiblement c'est un joli métier de reconversion aussi.
Tout à fait. Et on est aussi sur voilà sur ces publics là et on est voilà à la recherche aussi de ces profils là. On a vraiment besoin de personnes qui sont dans cette dynamique là. Et ce que disait Monsieur Libault est très important aussi, c'est que il faut valoriser les métiers du domicile, il faut valoriser les métiers du grand âge et ça passe par plusieurs axes, et notamment on soutient effectivement ce qui a été dit par la ministre Agnès Buzyn de commencer par là et de travailler sur un grand plan en faveur de ces métiers, mais ça passe aussi par des revalorisations salariales.
Donc la 21 euros par exemple.
Voilà, effectivement, alors dans ces 21 euros plus voilà, les compléments que M. Libault a évoqués, ces 21 euros ils doivent prendre en compte un certain nombre de choses et notamment de pouvoir payer correctement et de pouvoir envisager des évolutions de carrière pour nos aides à domicile et nos aides soignantes. Et puis aussi de pouvoir financer ce que Sylvie va faire, c'est-à-dire des temps de coordination et des temps d'analyse de pratiques entre salariés.
Vous parliez de on a du mal à trouver, vous êtes en recherche constamment de gens. Moi, je vois aussi que dans les EHPAD, il y a, je crois, 60% des EHPAD EHPAD à qui il, dans lesquels un poste n'est pas pourvu. Comment aujourd'hui vous dites-vous, Maud Collomb, à quelqu'un, si, viens travailler, tu verras, c'est formidable, viens travailler chez nous. Qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui quand elle ne, comment ne pas l'entendre répondre derrière, bah non, c'est pas bien payé, oui, c'est pas bien valorisé, à quoi je sers au fond, à quoi sert mon travail, etc. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens aujourd'hui ?
Alors, c'est d'ailleurs un sujet sur lequel on travaille à la DMR actuellement, c'est vraiment travailler sur ces valorisations du métier et des plus, notamment à la DMR, de pouvoir montrer voilà l'utilité sociale de ce métier-là, de pouvoir montrer aussi que c'est, on a l'impression que ce sont des travailleurs isolés, mais en fait non, il y a aussi un travail en équipe, il y a aussi des possibilités d'évolution de carrière, on travaille sur des logiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on forme aussi les salariés dans notre branche bien au-dessus de ce qui est fait de manière légale, donc voilà, il y a pas mal de plus, et il y a aussi cette logique de passerelle, parce qu'à la DMR on a une offre de services diversifiés, on a de l'accompagnement des personnes âgées, mais on a aussi l'accompagnement à domicile des personnes handicapées, on travaille dans le champ de la petite enfance, on a aussi développé des crèches, donc il y a aussi possibilité d'aller vers d'autres métiers, pas que les métiers de la personne âgée.
Allez-y, Dominique Hibault.
Juste une petite idée par rapport à l'auditeur précédent. Il y a beaucoup de déplacements. Il faut aussi arriver à réduire les temps de déplacement. Et là, il y a des applications qui se font jour. Et plusieurs employeurs, plusieurs associations peuvent se grouper, des groupements d'employeurs, pour permettre qu'ils sachent où il y a des besoins et pouvoir minimiser les déplacements de la personne et maximiser le temps travaillé. C'est important parce que vraiment, quand on est à travailler à domicile, le temps en déplacement, c'est vraiment quelque chose qui peut être lourd.
Patrick habite dans le Nord. Cette question sur franceinter.fr. Les Belges vont mettre en place une assurance perte d'autonomie payée par tous 50 euros par an à partir de 26 ans. Cette assurance financera la perte d'autonomie en fonction des revenus et en complément d'autres aides. Je trouve cette contribution, dit-il, très supportable, surtout au regard, par exemple, de l'assurance d'une voiture. Est-ce que ça a été sur le tapis, cette une assurance perte d'autonomie ou pas ?
Oui, enfin, ça a été, cette hypothèse a été évoquée. Alors, est-ce que c'est une assurance privée obligatoire ? Mm-hmm. C'est une première question. Est-ce que c'est dans le domaine de l'assurance privée où on a plutôt, à ce moment-là, des contributions qui sont forfaitaires, donc pas fonction du revenu ? Et ça peut peut-être poser quand même un peu une question. Ou plutôt dans le domaine obligatoire ? Dans la concertation, puisque ce rapport émane du concertation, il a été trouvé qu'aujourd'hui, vu notre niveau en France de prélèvement obligatoire, c'était pas opportun stade de proposer un nouveau prélèvement obligatoire. Donc c'est pour ça que
vous
nous
êtes
n'avons
penché
pas
vers la CRDS
sur cette piste.
Pour être sûr, parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce sens-là, Robert Habitapo, il nous dit, est-ce qu'il y aura, oui ou non, une nouvelle journée de solidarité pour financer ces dépendances ? Est-ce qu'on peut répondre non ou pas ?
Alors d'abord, nous faisons un rapport, j'ai piloté
vous
une concertation avec un rapport, voilà, c'est des préconisations, les décisions, c'est le pouvoir politique. Hein. Je ne peux
c'est
pas
une, ça s'appelle
anticiper.
Une proposition.
Nous ne proposons pas à ce stade non plus une deuxième journée de solidarité, un peu pour la même raison, parce qu'en fait, derrière la deuxième journée de solidarité, c'est plus de temps travaillé pour les salariés, et en contrepartie, on demande un prélèvement obligatoire à l'employeur. Donc, il y a quand même un prélèvement obligatoire à la clé. Donc, ça ne nous a pas semblé non plus très satisfaisant, puis on a un sujet sur le travail indépendant, on ne sait pas très bien comment faire. Bon, donc, ça n'a pas été retenu non plus par la concertation. Donc, oui, il y a des hypothèses de financement comme la contribution de remboursement de la dette sociale, enfin, au moment de son extinction.
Donc, 2024.
Voilà. Mais on dit aussi que c'est pas non plus la recette miracle, c'est-à-dire que pour pouvoir faire en sorte que une telle recette vienne pour la dépendance, eh bien, d'une part, il faut bien avoir fini de rembourser la dette, donc avoir des équilibres financiers dans la sécurité sociale, il faut avoir progressé dans des endettements de la France, donc tout ceci est quand même subordonné à une bonne gestion des finances publiques et à une bonne maîtrise de la dépense publique. Donc nous n'avons pas, on a des recettes qui peuvent permettre effectivement demain d'asseoir le financement de la dépense dans la durée, mais ceci suppose, pour les mobiliser, une vraie priorisation des dépenses. Et là, ça déborde de notre sujet. C'est ensuite au pouvoir public, effectivement, de voir comment ils peuvent prioriser cette dépense par rapport à d'autres dépenses.
Mais ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, la journée de solidarité a toujours un point d'interrogation en face au fond. Un financement par les retraites a aussi un point d'interrogation toujours en face. Cette proposition, cette idée a aussi un point d'interrogation toujours en face. En tout cas, est toujours potentiellement sur la table ou pas ?
ça dépasse effectivement le cadre de la concertation, là, puisque nous disons, nous avons des recettes, mais ça, ces recettes, pour les mobiliser, il faut quand même avoir un chemin de finances publiques qui soit vertueux, avec une maîtrise de la dépense publique. Nous évoquons notamment, par exemple, le fait qu'il pourrait y avoir des excédents de la sécurité sociale qui pourraient venir dans une politique de protection sociale du 21e siècle, venir abonder ce risque autonomie. Pour autant, il faut qu'il y ait des excédents. Donc, il faut effectivement une maîtrise de la dépense publique par rapport aux recettes pour générer cette capacité de pouvoir mobiliser ces ressources. Je rappelle simplement un chiffre quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a 24 milliards donc sur de dépenses publiques sur ce sujet des personnes âgées en perte d'autonomie, et que l'ensemble de la loi de financement de la sécurité sociale, c'est plus de 500 milliards. Donc, c'est quand même une masse pas négligeable, 24 milliards, mais quand même...
Moi, j'en avais 30, donc vous voyez...
30 milliards, c'est avec les dépenses privées, c'est 6 milliards pour les ménages. C'est tout à fait compatible, c'est 24 publics et 6 milliards ménages.
D'accord. Bonsoir, Geoffroy.
Bonsoir.
Vous êtes très patient, pardon de vous avoir fait attendre si longtemps, on vous écoute.
Bonsoir, donc moi je dirige une association en Loire-Atlantique. Je remercie France Inter d'avoir laissé la parole à Sylvie et d'une manière générale... la question du domicile. On est très content dans notre réseau l'Union nationale de l'aide et des soins et services à domicile du rapport Libo qui parle du grand âge en laissant effectivement une place importante au domicile. En d'autres mots, on ne parle pas que des EHPAD dans ce rapport. Mmh. Et puis, vous l'avez dit en début d'émission, l'enjeu numéro un, c'est la question de l'attractivité des métiers. Et là-dessus, on ne peut que signer dès demain. Voilà, ça fait évidemment unanimité. Néanmoins, donc vous avez également parlé d'un tarif socle à 21 euros. On a des chiffres de 550 millions d'euros à remettre dans le domicile et dire assez rapidement que c'est pas assez. C'est-à-dire que avec 21 euros, on paye les interventions, le temps de déplacement au SMIC, mais ça n'en rend pas le métier attractif. Moi, je suis dans un département où on a un tarif à 24 euros. On est engagé là dans des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. 24 euros, c'était le tarif moyen qui fait référence de l'étude nationale des coûts qui date d'il y a 3-4 ans. Voilà. Donc, merci à Dominique Libault. L'enjeu de demain, là, c'est Agnès Buzyn. On nous parle d'un projet de loi avant la fin de l'année. Mais avant ce projet de loi qui va restructurer le domicile, il y a des choses assez faciles à faire. Les partenaires sociaux, l'ADMR, l'UNA et les autres sont prêts à signer des accords avec une vraie revalorisation des salaires. Donc pour l'attractivité des métiers, il faut juste que Agnès Buzyn, tout de suite, là, il n'y a pas besoin d'un projet de loi, enfin d'un calendrier parlementaire, il faut juste qu'elle agrée ses accords salariaux et que ensuite ces accords fassent référence auprès des départements qui financent. Donc là, effectivement, il faudra que l'État tape un petit peu du poing sur la table sur cette question.
Merci Geoffroy. Dominique Libault sur les remarques de Geoffroy.
Un tout petit point sur le financement des services à domicile. Je veux pas être trop technique, mais aujourd'hui on ne finance que l'intervention, le face-à-face avec l'intéressé. Ce qu'on propose au-delà des 21 euros, c'est de changer la tarification pour permettre tout l'accompagnement, toute la qualité qui aujourd'hui est mal prise en compte. En fait, ça va. Notre proposition va plus loin que simplement ce tarif plancher de 21 euros. Voilà ce que je voulais dire sur ce point.
Maud Collomb, sur le même sujet.
Oui, alors effectivement, c'est un sujet effectivement un peu complexe par rapport à cette logique de tarification, mais on est en phase avec ce qui a été proposé par le rapport Libo. On espère qu'effectivement, on va pour une fois aboutir. Il y a un certain nombre de propositions, notamment sur la question des tarifs, la question du financement, qui avance beaucoup plus techniquement que ce qui a été fait précédemment. Donc on pense que ça va aboutir et on espère qu'à la fin de l'année, on aura cette loi qui permettra d'avoir un modèle économique viable pour les services à domicile et de pouvoir accompagner correctement les personnes à domicile le plus longtemps possible.
Une loi prévue à l'automne, il faut une loi, donc, hein, c'est ça aussi ça que ça veut dire, Dominique Libault. Il faut que ce soit inscrit dans la loi.
Tout ne n'est pas dans le législatif, évidemment, dans ce changement de regard sur la personne âgée, c'est le changement de prise en charge de la personne âgée, mais la loi sera utile. Je voulais juste indiquer un point sur ce modèle économique, c'est que quand même, il faut reconnaître que les mesures récentes du gouvernement sur les exonérations de cotisations patronales sur les bas salaires aident à ce modèle économique. Et il ne faut pas dire non plus qu'on ne fait rien. Les gouvernements a engagé avec la substitution de ces exonérations au CICE ou ce qui existait dans le secteur associatif, des dispositions qui sont aussi favorables à l'emploi dans ce secteur.
Maud Collomb.
Ah oui, alors effectivement, il y a aussi ce point-là. Et ce qu'on souhaite, nous, au niveau national, c'est vraiment travailler sur un cahier des charges national qui détermine ce qui peut être fixé au niveau national, c'est-à-dire la qualité de service, on en a parlé tout à l'heure, piloté par la qualité de service, c'est pour nous très important à l'ADMR. Si on peut déterminer ce cahier des charges national et laisser la place à de la négociation locale sur un certain nombre d'objectifs de qualité, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en place et qu'on pourra ensuite avoir les idées un peu plus claires sur le financement des services.
Allez, il nous reste un peu de temps pour un dernier appel. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir. Donc moi je suis un aidant familial depuis à peu près 5 ans pour une mère âgée de 92 ans et j'ai commencé à domicile et ensuite dans des structures hospitalières, notamment maison de convalescence, hôpital, service de 28, etc. Et maintenant en EHPAD. Et globalement, moi je milite pour la création d'un congé rémunéré pour les aidants familiaux. Actuellement il existe juste un congé non rémunéré de 3 mois. Et à certaines occasions, pour pallier les insuffisances de certains professionnels, je peux donner un exemple précis, dans un hôpital en fin de suite, je me suis dû prendre 15 jours, 3 semaines d'arrêt pour pouvoir empêcher que ma mère soit grabataire plus vite que prévu parce que la kiné ne considérait qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Et nous, on a réussi, en étant deux, à la faire marcher régulièrement tous les après-midi avec un déambulateur en le courageant. Et voilà, donc ça c'est un exemple, je pourrais les multiplier. Et globalement, je pense que plus on encouragera les personnes qui connaissent le mieux les personnes, c'est-à-dire évidemment en premier la famille, mais également ça peut être aussi des personnes qui ont eu l'habitude de, en commençant à domicile par exemple, à intervenir, la personne sera beaucoup plus en confiance et surtout elles auront la possibilité d'avoir plus de temps à consacrer. Parce que en EHPAD, concrètement, c'est vrai que moi quand je viens, je passe 1h15 à manger ma mère. Et sur place, ils n'ont qu'un quart d'heure à 20 minutes.
Merci beaucoup. Merci Eric, merci beaucoup. Comme il nous reste peu de temps, je voudrais vraiment donner le temps à Dominique Libaud et à Maud Collomb de répondre. Dominique Libaud, un salaire pour les aidants,
enfin,
un vrai salaire pour les aidants.
Nous proposons une indemnisation effectivement du congé de proche aidant. Il y a un congé aujourd'hui qui n'est pas rémunéré. Et nous proposons
sur le modèle des parents d'enfants handicapés, en fait, c'est le même système.
Allocation journalière AJPP pour les enfants malades, effectivement. C'est un peu le même système que nous proposons. Donc nous pensons que c'est effectivement très important. Nous proposons aussi que dans les négociations d'entreprises ou de branches professionnelles, ce sujet de la conciliation vie professionnelle et aidant de ses parents soit vraiment un sujet qui soit abordé. Aujourd'hui, il y a une forme de déni. Autant, effectivement, il y a conciliation vie familiale et professionnelle vis-à-vis des enfants. Aujourd'hui, ce sujet, c'est pas du tout évident. Donc, il faut vraiment aborder ce sujet. Par ailleurs, nous proposons aussi pour les conjoints aidants de travailler sur le droit au répit parce que c'est extrêmement important aussi. Donc effectivement, tout ça pour dire, les aidants, c'est un élément extrêmement important du dispositif et c'est très important de les aider parce que certains même négligent leur santé pour aider celui qui est proche et donc il faut aider les aidants et nous proposerons aussi la création d'une maison des aînés des aidants pour les aider dans l'entrée des dispositifs parce qu'aujourd'hui les offres sont trop complexes.
Merci.
C'est un parcours du combattant trop souvent.
Dominique Libaud, merci. Juste un mot de conclusion Haute Colomb là-dessus. Évidemment qu'aider les aidants, vous aiderez-vous aussi de votre côté, j'imagine.
Complètement. Et puis, donc nous, on travaille en partenariat avec les associations nationales des aidants. Et moi, ce que je souhaiterais dire pour terminer, c'est qu'il y a effectivement une proposition très importante, c'est faire de l'écoute et des échanges avec la personne âgée et les aidants un acte de soin.
Allez, vous l'avez entendu, il est déjà 20h. Merci à tous. Merci pour vos nombreux appels et portez-vous bien.